Grand Angle sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, votre Grand Angle hebdo, l'actualité de ces 7 derniers jours, le sommaire. La ville de Gaza, assiégée au sol et dans les airs par l'armée israélienne. Nous écouterons Rami Abou Jamous, grand reporter dans l'enclave palestinienne. La direction de la principale formation de l'opposition turque va-t-elle être destituée? Réponse attendue le 24 octobre. Jean-Marc Coux, chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul, évoquera une fébrilité grandissante du pouvoir turc face à l'opposition. La mobilisation sociale jeudi dernier en France, transport, éducation, fonction publique, de nombreux secteurs ont été touchés. Nous y reviendrons avec le secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot. Une pharmacie ferme chaque jour en France. Les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme. Ils se sont eux aussi mobilisés jeudi. Dans votre grand angle hebdo, Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. L'armée israélienne a débuté dans la nuit de lundi à mardi une offensive terrestre sur la ville de Gaza. Nous sommes passés à l'étape suivante, la phase principale du plan pour la ville de Gaza. Les forces du commandement sud de l'armée israélienne ont étendu les activités terrestres dans le principal bastion du Hamas qui est la ville de Gaza. C'est ce qu'a affirmé un responsable militaire israélien au lendemain d'une nuit de bombardement. Cela a provoqué l'exode vers le sud de nombreux habitants de Gazaville, comme le souligne le grand reporter Rami Abou Jamous depuis Gazaville.
Oui, il y a un flux de déplacés, malheureusement, ceux qui ont perdu leur maison ou bien ceux qui sont dans des quartiers que les Israéliens ils sont en train de bombarder. Le nord de la ville de Gaza, l'est de la ville de Gaza, il y a pas mal de gens qui sont en train de partir vers le sud. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport pour aller au sud. Ils n'ont pas d'argent pour aller au sud et surtout qu'au sud, il n'y a aucun endroit vide, il n'y a aucune place vide, même pour placer une petite tente, il n'y a plus d'endroits vides.
Vous continuez, bien entendu, à demander l'accès à la presse internationale dans la bande de Gaza. C'est particulièrement important.
Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Les Israéliens, ils veulent faire leurs crimes sans témoins. Et surtout, ils tuent les journalistes palestiniens. Et en même temps, ils refusent aux journalistes étrangers d'entrer dans la bande de Gaza. Justement, parce qu'ils ne veulent pas des témoins pour tous ces crimes-là qu'ils sont en train de faire.
Vous-même, vous êtes un témoin. Vous êtes grand reporter, vous êtes situé dans la ville de Gaza. Quelles sont vos intentions dans les heures, dans les jours à venir? Vous comptez rester à Gazaville, quoi qu'il arrive?
Oui, c'est notre façon de résister. C'est rester jusqu'à la dernière minute. Et moi, je vais rester jusqu'à la dernière minute. Comme ça s'est passé au début de la guerre, je suis resté chez moi jusqu'à la dernière minute, jusqu'on était encerclés pour partir. Et là, pareil, c'est notre façon de résister aussi, de rester à la dernière minute.
Le grand reporter palestinien Rami Abou Jamous. Un tribunal d'Ankara a reporté lundi dernier, au 24 octobre prochain, sa décision sur une possible destitution pour fraude de la direction de la principale formation de l'opposition turque, le CHP. Des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue dimanche dernier pour soutenir le parti. Un rassemblement à l'appel de ce mouvement d'opposition, le CHP, le Parti Républicain du Peuple Social-Démocrate, rejette les accusations de fraude et estime que les autorités tentent de l'affaiblir par un procès politique. Jean-Marc Coux, professeur émérite à Sciences Po Grenoble, chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul, évoque une fébrilité grandissante du pouvoir turc face à l'opposition.
L'AKP fait face à la fois à l'usure du pouvoir, à une crise économique et sociale qui a peu à peu rongé, si vous voulez, son influence qui paraissait intacte pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, ses revers électoraux, les sondages indiquent quand même une fatigue de l'AKP face à ce parti, cette opposition qui s'est en outre reconstituée au niveau local en prenant la direction de municipalités qui sont très importantes, hein, parce que les villes d'Istanbul, d'Izmir, d'Antalya, d'Adana sont des villes de plusieurs millions d'habitants. Il y a une fébrilité parce qu'il y a une sorte d'urgence. Alors, urgence qui n'est pas simplement en termes d'influence politique, mais qui est tout en même temps aussi en termes de réalité constitutionnelle. Je veux dire par là que le président actuel, Recep Tayyip Erdogan, théoriquement ne peut pas se représenter à une nouvelle élection présidentielle, puisque théoriquement la Constitution explique qu'il ne peut faire que 2 mandats. Or, il en est déjà à son 3e mandat parce que sous l'effet d'une bizarrerie constitutionnelle, c'est-à-dire que la révision qui a créé ce système présidentiel où on a droit à 2 mandats n'a été faite qu'en 2017, donc on a remis les pendules à zéro et on ne compte finalement les mandats que depuis 2018. Mais quand on regarde bien, Recep Tayyip Erdogan a fait déjà 3 mandats et il a été antérieurement, avant 2014, Premier ministre de 2002 à 2014. On a un président effectivement qui est au pouvoir maintenant depuis plus de 20 ans et qui constitutionnellement a un peu épuisé ses mandats.
C'était Jean-Marc Cou, chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'histoire. La mobilisation sociale en France, transport, éducation, fonction publique, de nombreux secteurs ont été perturbés jeudi dernier. Les 8 syndicats représentatifs des 5 800 000 agents dans la fonction publique avaient appelé unanimement à la grève, une grève contre les mesures d'économie. Plus de 500 000 manifestants ont défilé à travers tout le pays, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur, plus 1 000 000 selon des syndicats. Le secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot, nous dit pourquoi ce mouvement pourrait être reconduit.
D'abord, c'est les assemblées générales des salariés où qu'ils se trouvent dans les administrations, dans les entreprises du privé, qui vont décider s'ils reconduisent la grève ou pas. Et puis après cela, fin des budgets d'austérité. Aujourd'hui, la facture présentée sur les 44 milliards qui étaient prévus, elle est juste présentée au plus grand nombre, c'est-à-dire les travailleurs. Et on ne revient pas sur les aides publiques versées aux entreprises, pour lesquels on demande une conditionnalité. La première conditionnalité de ces aides publiques versées aux entreprises, et c'est le rapport du Sénat qui le dit, 211 milliards d'euros, et je suis pas sûr que les sénateurs soient des économistes atterrés, eh bien la première conditionnalité, c'est l'emploi en France. On ne peut pas continuer à verser des aides publiques aux entreprises pour qu'elles délocalisent. Qu'on arrête aussi de taper sur notre protection sociale collective. Le doublement des franchises, les jours de carence d'ordre public. Quand on explique qu'il faut responsabiliser les travailleurs vis-à-vis de leurs arrêts de travail, on ne choisit pas de tomber malade. Et le travailleur ne s'arrête pas en arrêt maladie. Il a une prescription du médecin et c'est un médecin qui l'arrête.
Là, vous évoquez un thème qui a été largement abordé, notamment par le gouvernement, les arrêts maladie. Demandez-vous à ce que l'on s'interroge davantage sur les causes de ces arrêts maladie?
Ben oui, parce que on peut parler de conditions de travail. C'est la deuxième conditionnalité de ces aides publiques aux entreprises. Comment est-ce que demain on améliore les conditions de travail? Encore une fois, en France, on a plus de 3 morts par jour au travail. 2 en accident du travail, 1 en accident de trajet. Et puis après, il y a l'ambiance collective. Comment est-ce qu'on revient sur les risques psychosociaux? Comment est-ce qu'on parle d'usure au travail, puisque c'est devenu la sémantique normale et on ne parle plus de pénibilité? Comment est-ce qu'on revient sur ces sujets de conditions de travail qui amélioreraient, y compris, parce que on n'a pas envie de tomber malade, on n'a pas envie d'être en arrêt maladie. Eh bien, pour le coup, si on améliore les conditions de travail, on va faire baisser le taux d'absentéisme et le taux d'arrêt de travail.
Le secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot, les pharmaciens, étaient aussi de la partie jeudi dernier. Une pharmacie ferme chaque jour en France. Les laboratoires ne peuvent plus faire d'importantes remises commerciales pour les médicaments génériques. Un arrêté pris par l'ancien gouvernement Bayrou. Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Notre sujet, nous, de mobilisation, il est clairement la défense de la santé de proximité et des pharmacies de proximité. L'arrêté qui a été pris au mois d'août par l'ancien gouvernement, par François Bayrou, est un arrêté incompréhensible, en ce sens qu'il ne rapporte rien à l'assurance maladie et qu'il donne des marges à l'industrie pharmaceutique, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien plein. Il faut savoir, et c'est peut-être peu su, que depuis des années, les pharmacies d'officine ont une crise économique. On a des pharmacies qui ferment, on a eu 4000 fermetures de pharmacies dans les dernières années, et là on a une pharmacie qui ferme par jour. Rien qu'au mois d'août, on a eu 30 pharmacies qui ont fermé.
Une pharmacie qui ferme par jour en France, cela concerne l'ensemble du territoire français ou alors les zones rurales sont davantage touchées ?
Alors, on a mis une carte sur notre site qui indique les lieux de fermeture. Et effectivement, ça touche les zones rurales et les zones où il n'y a plus qu'une seule pharmacie. Et c'est un problème d'accès aux soins. Depuis le début de l'année, 25 villages ont perdu leur dernière pharmacie. Et c'est à la fois un problème pour l'accès aux soins, mais c'est aussi un problème pour l'attractivité du village, pour l'attractivité de la petite ville, puisque plus personne ne veut s'installer dans une ville où il n'y a pas des services essentiels. Et les services essentiels, c'est notamment l'accès aux médicaments.
Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Philippe Bessé. Fin de ce grand angle hebdo, une émission à retrouver sur votre site internet radioorient.com, sur les réseaux sociaux de Radio Orient également. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.